Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Ils ont prêté serment de neutralité, d'indépendance et du secret de leurs délibérés, même après leurs fonctions. Eux, ce sont les nouveaux membres de la CENI, avec à leur tête Denis Kadima. La cérémonie a eu lieu hier, mardi, à la cour constitutionnelle, ici à Kinshasa. Et puis, le nouveau comité de gestion de Congo Airways a totalisé 100 jours hier. Et à l'occasion, le DG ad intérim de cette entreprise de l'État souligne que sa compagnie applique à la lettre la politique tarifaire ordonnée par le gouvernement pour faciliter les mouvements de ses clients dans les réseaux domestiques. Enfin, notre invité dans ce journal, c'est Emona Pipen Hashim, directeur du projet d'appui à la connectivité et au transport. Il nous parlera du forum qui s'est tenu à Goma la semaine dernière sur la gouvernance minière au Nord Kivu. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les 12 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment d'entrer en fonction hier mardi devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Avec à la tête Denis Kadima, ils ont procédé à la signature du procès-verbal ayant sanctionné leur serment de neutralité, d'indépendance et du secret de leur délibéré, même après leur fonction. C'était au cours d'une audience publique solennelle en présence du Premier ministre, des présidents de deux chambres du Parlement et des institutions d'appui à la démocratie. Reportage, Jeff Ngoy.
Une foule nombreuse qui envahit la cour constitutionnelle fait de l'animation. Dans cette ambiance, Denis Kadima est invité à la barre pour prêter serment.
Je jure sur l'honneur de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret de délibération et du vote, même après la cessation des fonctions, de n'ébriguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante.
Le juge président de la Cour lui en donne acte.
La Cour reçoit votre serment en qualité de membre et de président de la Commission électorale nationale indépendante et vous en donne acte. Sincère félicitations.
Dès mercredi, c'est la remise et reprise avec l'équipe sortante de la CENI.
Cette prestation de serment est un signal fort qui démontre que le processus électoral est lancé pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Propos du parti politique Bloc Uni pour la renaissance du Congo, Burek. Muteule Mororo, député national et porte-parole de ce parti, s'exprimait ainsi ce mardi ici à Kinshasa, à l'issue de l'assemblée extraordinaire du bureau politique de ce parti cher à Julien Paluku. Sous un autre chapitre, il a appelé tous les Congolais à soutenir les militaires pour qu'ils réussissent à pacifier les régions sous état de siège. Muteule Mororo le dit à Paul Matendo.
La direction politique nationale note qu'à ce jour, les membres du bureau de la CENI viennent de prêter serment devant la Cour constitutionnelle qui en a pris acte. Ceci est un signal fort que le processus électoral est lancé et que le président de la République est engagé à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. La direction politique nationale appelle les cadres et militants du BIREC de se ranger en ordre utile pour les élections qui pointent à l'horizon. La direction politique réitère son soutien aux actions militaires en cours et demande l'accompagnement de ces cadres et militants et toute la population en général pour que l'état de siège décrété par le président de la République impose la paix, gage de tout développement.
De leur part, les partenaires de la RDC disent regretter le manque de consensus constaté dans la désignation de membres de la CENI qui, selon leurs propres termes, je cite, « constitue un élément important pour renforcer la confiance à l'égard du processus électoral à venir ». Fin de citation. Néanmoins, ils appellent les autorités compétentes à rechercher l'adhésion de tous les acteurs concernés, notamment les partis politiques et la société civile, au processus électoral et à renforcer leur confiance en celui-ci. Ils le disent dans une déclaration conjointe rendue publique hier mardi. Les détails avec Billy Van Lutumba.
Cette déclaration conjointe porte la signature de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, de la Corée du Sud, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, la Grèce, l'Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la République tchèque et de l'Union européenne. Dans ce document, ces pays et organisations disent réaffirmer leur attachement aux principes partagés de transparence, de liberté, d'inclusivité et d'impartialité et de crédibilité des prochains scrutins essentiels à la consolidation de la démocratie et à la stabilité en RDC. Leur appel aux autorités compétentes à rechercher l'adhésion de tous les acteurs concernés par le processus électoral est aussi en rapport avec les prochaines étapes. À cette fin, les prochaines étapes cruciales incluront la révision de la loi électorale qui doit renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence, le lancement effectif du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, ainsi que l'établissement d'un budget idoine et d'un calendrier électoral respectant les échéances constitutionnelles, écrivent-ils. Ils disent réaffirmer leur soutien au gouvernement congolais pour l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusives dans les délais prévus par la Constitution. Ils saluent enfin le souhait exprimé par le président Félix Tshisekedi concernant l'observation électorale internationale et étudient les modalités pour répondre à son invitation à accompagner le processus électoral.
Autre nouvelle, le gouverneur Atou Matubwana du Congo central devrait reprendre ses fonctions selon une décision judiciaire. Le Conseil d'État a suspendu depuis samedi 24 octobre l'intérim au gouvernorat de la province. Et le lundi, il a notifié son ordonnance mettant fin à cet intérim au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, au ministre d'État en charge de la Justice ainsi qu'à toutes les autres parties concernées dont la CENI. Les détails avec Jeff Ngoy.
Atou Matubwana avait saisi en septembre dernier le Conseil d'État, section contentieux, siégeant en chambre de conseil en matière de référé liberté. Il avait demandé au juge des référés liberté de mettre fin à l'intérim ouvert par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à travers son message officiel du 5 septembre. Selon Atou, la décision du vice-premier ministre portait atteinte à ses libertés fondamentales. La loi sur les juridictions de l'ordre administratif dispose à son article 283 que lorsque une décision porte atteinte aux libertés fondamentales, le juge en référé liberté est saisi pour se prononcer. C'est ce qui vient d'être fait et le juge lui a donné gain de cause. À l'audience, le conseil du vice-premier ministre avait soulevé l'exception d'anticonstitutionnalité pour bloquer le juge, estimant qu'il revenait à la Cour constitutionnelle de statuer sur l'affaire. Le juge a rejeté ce moyen. C'est depuis hier lundi qu'il a notifié toutes les parties. Le parquet général près cette haute juridiction est chargé d'exécuter immédiatement cette ordonnance.
Alors, sur place au Congo central, malgré la décision du Conseil d'État qui suspend l'intérim à la tête de la province, les opérations au niveau du bureau de réception et traitement des candidatures au secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo central se poursuit sans désemparer. D'après le président de ce bureau, plus de 10 formulaires sont déjà retirés par les mandataires et des candidats depuis l'ouverture de cet office lundi 25 octobre dernier. Selon Arsène Poutou-Tomono, il n'y a que la direction de la CENI au niveau national qui peut arrêter le fonctionnement du BRTC en rapport avec la décision du Conseil d'État. Il ajoute que jusqu'à présent, ce bureau n'a reçu aucun ordre dans le sens de suspendre les opérations en cours. On l'écoute au micro de Nana Purichimambu.
Conformément au calendrier publié par les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante qui nous avait été envoyé. Donc c'est depuis le lundi 25 octobre que nous avons ouvert nos portes au public pour procéder à tout acte relatif à la constitution du dossier de candidat. Les opérations se poursuivent en dépit de ce qui se passe au niveau du Conseil d'État. Les juristes parleront de la théorie de l'acte contraire, qui veut dire que dans l'hypothèse où nous devons arrêter les opérations de réception et de traitement des candidatures, nous devons être saisis officiellement. De notre propre gré, nous ne pouvons pas prendre une démarche contraire à notre hiérarchie. Jusqu'à la seconde où nous sommes en train d'échanger, il n'y a aucun message contraire quant à ça. Si au niveau des instances nationales, le bureau de la CENI est notifié, sûrement que l'information nous sera répercutée par les voies officielles.
Une motion de défiance contre le ministre de la Défense, le général à la retraite Gilbert Kabanda, entre les mains des services du président de l'Assemblée nationale. Les auteurs de cette motion ont passé plusieurs heures hier mardi au service courrier du président de la Chambre basse du Parlement qui refuse selon eux d'accuser réception de cette motion. D'après les députés Foura et Jean-Baptiste Kasueka, respectivement élus de l'Ituri et du Nord Kivu, cette motion est relative à la détérioration de la situation sécuritaire dans le deux provinces. La motion contre le ministre de la Défense est signée par 60 députés nationaux, affirme Jean-Baptiste Kasueka. On l'écoute au micro de Michel Kifindangoy.
Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège, 60 députés nationaux ont signé une motion de défiance contre le ministre de la Défense nationale parce que la commission de défense et sécurité a formulé des recommandations pertinentes qui ne sont pas mises en application. Des fonds ont été débloqués et les militaires sur la ligne de front demeurent dans des conditions difficiles. La responsabilité du gouvernement est engagée et c'est lui qui doit répondre. Mais nous dénonçons le fait que depuis 11 heures, nous avons remis la motion entre les mains des agents des services courriers jusqu'à 7 heures, 17 heures et même au-delà. Aucune accusée de réception n'a été apposée sur la motion et nous allons passer nous ici jusqu'à ce qu'elle soit reçue pour que dans les 48 heures, il y ait une plénière qui décide d'engager la responsabilité du ministre de la Défense.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs. La compagnie Congo Airways applique à la lettre la politique tarifaire ordonnée par le gouvernement pour faciliter le mouvement de ses clients dans les réseaux domestiques. La déclaration est du directeur général ad intérim de Congo Airways, Pascal Kasongo Mwema Yambayamba, l'a dit hier mardi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa. C'était à l'occasion des 100 jours du nouveau comité de gestion. Il a également annoncé le désenclavement de la RDC avec l'arrivée dans les prochains jours des nouveaux avions. On écoute Pascal Kasongo Mwema, DG AI de Congo Airways, au micro de Richard Junior Kamunga.
Il faut savoir que le Congo, la RDC, a plus ou moins 54 aéroports et aérodromes confondus. Ces derniers se classifient en trois catégories. Vous avez des aéroports de catégorie A, B et C. Au jour d'aujourd'hui, nous avions deux types d'aéronefs. Le Airbus 320, qui correspond aux aéroports de catégorie A, et le Q400, qui peut aller sur les aéroports de catégorie A et B. Malheureusement, nous n'avons pas encore, je dis bien encore, d'aéronefs de catégorie d'aéroport C. Et nous travaillons là-dessus, parce que nous avons une mission, et cette mission consiste à désenclaver le pays. Mais nous devons y aller étape par étape. Alors non, je ne cache pas le nombre d'aéronefs que nous avons. Nous avons 4 aéronefs en propre, 2 Airbus et 2 Q400. Nous avons en location 2 Embraer et en acquisition d'achat 4 avions qui vont arriver progressivement à partir du mois de décembre.
Et puis, ça a ouvert hier mardi au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, la télé d'information sur la mission du Fonds monétaire international concernant la première revue des programmes économiques soutenus par la facilité élargie de crédit. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a présidé cette cérémonie. D'après le ministre des Finances, cette première revue permettra de démontrer les efforts déployés par le gouvernement pour rencontrer les différents engagements tant en ce qui concerne les critères quantitatifs que les repères structurels. Une occasion pour le Premier ministre de saluer les efforts des membres de son gouvernement en rapport avec la confiance retrouvée auprès du FMI depuis l'interruption des discussions en 2012. Jean-Michel Samaloukonde.
Nous avons tenu depuis ce moment de rester sur ces valeurs justement de bonne gouvernance pour maintenir notre cadre macroéconomique en respectant le pacte de stabilité tel que discuté avec le FMI. Et nous avons voulu aller dans le sens du maintien des accords établis. Nous avons avec satisfaction pu maximiser les recettes au-delà de ce qui était attendu, au point que nous avons pu déposer une loi rectificative du budget 2021 à la hausse pour la première fois dans notre pays. Nous restons convaincus que les efforts à fournir sont encore énormes. Et je crois que avec l'accompagnement du FMI, nous serons en mesure, dans le cadre de la sélection de nos réformes, des réformes structurantes, d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes assignés. Au-delà des investissements, tels que cela a été mentionné, parce que c'est très attendu dans le cadre du développement social de notre pays, Nous avons d'autres secteurs dans lesquels nous voulons avoir une certaine éclosion pour sortir de la dépendance du secteur minier. On a parlé de l'amélioration de nos réserves de change qui jusque-là se sont bien comportées et nous allons continuer à maintenir des efforts dans ce sens.
Pour sa part, la chef de mission du FMI pour la RDC a salué les efforts fournis jusque-là par le gouvernement congolais, notamment ce qui concerne l'augmentation des réserves de change et le niveau de mobilisation des recettes publiques enregistrées ce dernier mois.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés est entré dans le fond. Un accusé qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987 a reconnu les faits, mais au tribunal, le soldat de première classe Élisée Il-Boudo a dit ne pas se souvenir de tous ces faits et gestes le jour du coup. Dans son récit, il explique que le 15 octobre, le commando est parti du domicile de Blaise Compaoré à bord de deux véhicules sur instruction de l'adjudant-chef Ancienne Kafando. Élisée Il-Boudo précise que Ancienne s'est saisie de la direction de son véhicule et a dirigé celui-ci contre l'entrée du bâtiment où le président Sankara était en réunion. Quand le véhicule a défoncé la porte, Ancienne et ses hommes sont descendus et ont ouvert le feu dans le désordre, tuant l'un des gardes du corps du président Sankara, poursuit l'ex-chauffeur de Blaise Compaoré. Puis l'accusé poursuit. Le président Thomas Sankara est sorti et a demandé ce qui s'est passé. En guise de réponse, Ancienne Kafando et ses hommes ont tiré sur lui.
L'invité.
Nous recevons comme invité dans cette édition du journal le directeur du projet d'appui à la connectivité et au transport. Cette organisation a réuni la semaine dernière à Goma une centaine d'acteurs intervenant dans les secteurs miniers venus du Nord Kivu, Ituri, Lualaba, Okatanga, Tanganyika et La Tchopo. C'est dans une table ronde sur la gouvernance minière au Nord Kivu. Ce forum, qui fait suite à celui de Bukavu la semaine dernière, est financé par l'agence américaine USAID. Et Mona Pipen Hashim nous parle de pourquoi de ce forum dans cet entretien avec Bernadette Nyang.
Monsieur Emola Pipin Hashim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici avec différents acteurs qui interviennent dans le secteur minier et où vous parlez de la gouvernance du secteur minier artisanal. À quel problème exactement d'abord vous voulez apporter la solution?
Vous savez, notre projet s'occupe essentiellement de la qualification et la validation durable des sites miniers. Mais lors de la mise en œuvre, nous avons observé certaines difficultés liées notamment à l'application de l'arrêté 09-19 qui fixe le processus de qualification des sites miniers artisanaux, aurifères et stanifères. Alors, il y a des questions qui sont relatives à l'adaptation de cet arrêté, par exemple, notamment la durée de validation des sites miniers, parce que les sites miniers ont une périodicité de 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est une période idéale? Il y a aussi d'autres questions, notamment la traçabilité de l'or. Il y a le système ITOA, il y a le système initié par le CEMAP, il y a la traçabilité électronique de l'or. Nous parlons aussi de la légalité de certaines structures de suivi, comme la commission de suivi des activités minières au Nord Kivu, qui ne se retrouve pas dans la région. 09-19, est-ce qu'il faudrait donner plus de légalité à cette commission? Donc voilà, il y a autant de questions qui nécessitent d'être discutées par les acteurs locaux, faire de propositions concrètes qui doivent être transmises à qui de droit, notamment le ministère national au niveau de Kinshasa, le ministère national de mines, je voulais dire.
Cet atelier intervient pendant que au moins 117 sites miniers artisanaux sont certifiés verts en province du Nord Kivu. Est-ce que c'est dans aussi les perspectives de voir comment organiser un peu une exploitation qui soit aussi valable par rapport aux textes légaux?
Oui, je voudrais d'abord donner une précision, c'est-à-dire qu'il y a 117 sites qui ont été validés, mais pour les experts, quand on dit 117 sites validés, il s'agit des sites verts. Mais pour les sites qui sont vraiment validés, le nombre sera un peu inférieur à cela parce qu'il y a des sites qui ont été qualifiés de jaunes et d'autres de rouges et donc ces sites-là ne sont pas validés. Mais d'une manière générale, il y a des mesures qui ont été prises pour les 117 sites qui ont été qualifiés par l'administration de mines du Nord Kivu avec l'assistance du projet SMSV. Cela veut dire tout simplement que les acteurs locaux, les exploitants, ont maintenant le pouvoir de se choisir un système de traçabilité qui pourrait taguer leurs minerais et leur permettre d'avoir accès au marché international. Alors, ça nous permet de savoir quelles sont les actions que nous devons mener avec l'administration de mines pour s'assurer que tous ces sites qui n'ont pas été qualifiés de vert le deviennent dans un délai de 6 mois comme le prévoit l'arrêté 0919.
C'est combien de sites qui sont qualifiés rouge, jaune ou vert, si vous en avez une idée?
Je ne saurais pas vous le dire pour le moment, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais le ministère national pourra mettre sur son site les différents arrêtés. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir une idée exacte des sites qui n'ont pas été qualifiés de vert.
Dans ce forum ici, je vois que ce n'est pas seulement les acteurs du Nord Kivu qui ont été conviés. Il y a aussi ceux qui viennent du Katanga, par exemple, ceux qui viennent de Maniema ou dans d'autres provinces. Pourquoi avoir choisi Goma? C'est juste pour échanger les expériences ou bien c'est plus que c'est ici où il y a le plus de problèmes dans la gestion des secteurs miniers artisanaux?
D'entrée de jeu, je dirais que Goma a été choisi avec Bukavu, tout simplement parce que ce sont les deux provinces où le projet SMSV est implémenté. Mais les réalités sont quasi les mêmes dans les deux provinces et il était pour nous important de faire participer d'autres acteurs de toutes les provinces de l'Est qui sont des provinces minières qui nous contactent pour nous demander une intervention du projet SMSV parce que cela pourrait aussi leur permettre d'apprendre ce qui s'est fait ici, de faire la restitution au niveau de leurs provinces respectives. Et nous comptons organiser une table ronde à Kinshasa où les différentes recommandations seront discutées, apurées et même adopté et transmise à qui de droit, c'est-à-dire le ministère national de mines, pour que le ministère puisse prendre des mesures qui s'imposent.
Monsieur Emola Pipin Hachim, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.